Bonjour Frédéric.
Bonjour Pierre, bonjour Patricia.
Bonjour
et
Frédéric.
Bonjour à tous. C'est le pot de terre contre le pot de fer, lit-on dans les pages de La Croix. David contre Goliath, l'image fonctionnerait aussi mardi prochain. Devant le tribunal de grande instance de Nanterre, deux parties seront face à face. D'un côté, une dizaine de paysans cambodgiens, des membres de l'ethnie Bunong. De l'autre, un groupe français aux 23 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier, le groupe Bolloré. Les premiers reprochent aux seconds de les avoir spoliés de leurs terres pour développer des plantations d'EVA. L'affaire commence en 2008, quand le gouvernement cambodgien accorde une concession foncière de 70 ans à une société du groupe Bolloré, 7000 hectares dédiés à la production de caoutchouc dans le Mondol Kiri, la région la plus vaste et la moins peuplée du pays, mais peuplée malgré tout. 850 familles réparties dans 7 villages, on défriche des terrains, les villageois s'insurgent, incendient des tracteurs, on est en train de détruire leur cimetière communautaire, et puis on grignote leur forêt sacrée. À certains, on propose une contrepartie de $200 par hectare exploité. D'autres disent qu'on les a forcés à signer des documents incompréhensibles. Aujourd'hui, ils exigent des dédommagements conséquents, de même que la restitution de leurs terres. Et elle est très intéressante cette histoire. D'abord parce qu'un groupe français est mis en cause, le groupe Bolloré, qui bien sûr estime n'avoir rien à se reprocher. Ensuite, parce que les Bunong comptent parmi les derniers peuples autochtones de la planète. Un peuple pour qui la forêt est à la fois chapelle, grenier et pharmacie. Ils vivent de la chasse, la pêche, la riziculture, mais depuis qu'on les a obligés à se déplacer, alors qu'ils vivaient là depuis des générations, ils se retrouvent avec des terrains caillouteux. Avant, pour eux, la forêt n'avait aucune frontière, ils étaient du reste étrangers à la propriété privée. Et maintenant, disent-ils, nous avons perdu la paix, car nous ne sommes plus libres. Ce petit peuple du Cambodge entend donc faire valoir ses droits. Pot de terre contre pot de fer, la procédure judiciaire promet d'être très longue, nous explique ce matin La Croix.
Il est également question d'autres terrains dans les journaux.
Et d'autres paysans. Français, ceux-là, qui vivent dans la région de Rouen et qui s'inquiètent suite au gigantesque incendie de l'usine Lubrizol. À Rouen, l'inquiétude après la catastrophe industrielle, titre ainsi Ouest France. On retrouve ce mot, inquiétude, en une de Paris-Normandie. Rouen, sale angoisse, note pour sa part Libération, une ville clairement polluée, selon la ministre de la Santé. Et malgré les mots rassurants de la préfecture, les fumées ne seraient pas toxiques. La population redoute les conséquences de cet incendie, notamment les agriculteurs, qui décrivent des sols souillés. Rencontre avec plusieurs d'entre eux dans Libération. Ils habitent à 10 bornes, 20 bornes de Rouen. Leurs champs, d'habitude si verts, sont aujourd'hui couverts de suie. Leurs vaches le sont aussi, oui, couvertes de suie. Et un mélange gras s'est déposé dans les abreuvoirs, dégageant une forte odeur d'hydrocarbures. On a demandé aux maraîchers et aux céréaliers de ne plus récolter leur production. On a demandé aux éleveurs de ne plus sortir leurs bêtes. Bertrand Berion, lui, n'a pas d'autre choix que de les laisser à l'air libre. Ses hangars sont pleins à craquer de bottes de lin. J'ai pu confiner mes poules, mais je n'ai de la place nulle part pour mes vaches, confie ce jeune agriculteur de 24 ans. On est dans un état d'urgence, mais sans savoir si c'est vraiment la catastrophe. Pour autant, certains n'hésitent pas à parler de catastrophe, une catastrophe industrielle, comme l'écrit Ouest France, une catastrophe écologique pour Libération. Des associations écologistes estiment que Lubrizol n'a plus sa place en ville. Une usine qui avait d'ailleurs déjà connu une fuite en 2013, un gaz malodorant. Elle avait été condamnée à 4000 euros d'amende pour négligence. Il faut des sanctions bien plus lourdes, estime Delphine Bateau, ex-ministre de l'écologie dans les colonnes du Parisien. Elle réclame également davantage de contrôle pour les sites classés Céveso, davantage de contrôleurs. Autrement dit, davantage de moyens. Et le journal se fait par ailleurs l'écho de la petite blague qui, dit-on, tourne en boucle depuis 2 jours à Rouen. Vous connaissez le dernier exploit de Jacques Chirac ? Avoir éteint à lui tout seul l'incendie de Lubrizol. Jeudi, toutes les télévisions avaient en effet envoyé leurs équipes sur les lieux de l'incendie jusqu'à ce que cette actu ne soit balayée des écrans par la mort de l'ancien président.
Et ce matin, Frédéric, ce matin encore, Jacques Chirac fait la une des journaux.
Avec des éditions spéciales pour les hebdomadaires dans l'Express, un président parmi les Français. Dans Paris Match, c'est Chirac, le bien-aimé, supplément du Monde. Également, Jacques Chirac, un destin, une époque. Une époque où l'on pouvait notamment tenir des propos quelque peu sexistes, ainsi que le rappelle le Huffington Post. Jacques Chirac, au milieu d'une négociation avec Margaret Thatcher, il pensait les micros éteints, mais qu'est-ce qu'elle me veut de plus, cette mégère, mes couilles sur un plateau ? Jacques Chirac, dans une interview en 1978, « Pour moi, la femme idéale, c'est la femme corrézienne. Celle de l'ancien temps, dure à la peine, qui sert les hommes à table, ne s'assied jamais avec eux et ne parle pas. » À l'époque, les propos misogynes ne choquaient pas.
Ne soyons pas nostalgiques de ce temps-là, pour autant c'est bien la nostalgie qui s'impose ce matin. Encore des hommages, des souvenirs partout dans les journaux. Par exemple, les souvenirs de Monique Bleu, une restauratrice de Corrèze. Elle se rappelle Chirac venant dîner un soir, elle avait préparé des alouettes fourrées au foie gras, enveloppées dans de la pâte feuilletée. J'en avais mis 6 par assiette et lorsque j'ai débarrassé, il avait aligné 6 becs. Les autres avaient laissé des petits brins d'os, mais lui, que les becs, rien que d'y penser, j'en ai des frissons. L'émotion et le recueillement, titre ce matin Le Figaro, sur une photo de la cour d'honneur de l'Élysée. On y voit celles et ceux qui font la queue depuis 24 heures pour venir écrire quelques mots sur les registres de condoléances. C'est lundi, après une cérémonie militaire aux Invalides, puis une messe en présence du chef de l'État que Jacques Chirac sera inhumé au cimetière Montparnasse à Paris. Il sera le premier président de la Ve République à être enterré dans la capitale, nous dit Le Parisien, une pierre tombale d'une totale sobriété située juste à côté de celle de Serge Gainsbourg. On nous a demandé de mettre un grand coup de propre pour lundi, témoigne un employé du cimetière dans Le Monde. Lisez aussi le papier de Béatrice Guret, le temps du chagrin des dernières années, Chirac, diminué par la maladie, accablé par la mort de sa fille aînée, l'ancien président vivait loin du monde avec son épouse. Mais loin du monde, c'est un texte absolument bouleversant.